violet.
Oh là là.
À votre écoute, coûte que coûte, du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
France Inter. La différence.
Et vous avez rendez-vous pour l'instant avec là-bas si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et les gens qui appellent au répondeur.
Un fonctionnaire sur deux ne sera pas remplacé. Un président sur deux ne sera pas réélu. C'est con, ça tombe sur toi.
Bonjour, j'appelle au sujet de votre émission d'aujourd'hui. Je suis en train de l'écouter et d'ailleurs je vais me dépêcher pour retourner écouter la fin. Moi, je suis fille d'ouvrier et je voulais juste dire que, en fait, souvent les ouvriers n'ont de cesse que d'éduquer leurs enfants pour que leurs enfants ne deviennent pas des ouvriers, justement. Donc, je suis pas certaine en réalité que la classe ouvrière, effectivement, soit encore fière d'elle-même ou l'ait jamais été, ou enfin, en tout cas, ait vraiment le désir de se sentir représentée comme ouvrier ou en tout cas. Soit dénommé comme ouvrier en tant que personne. Enfin bon, bref, c'est très confus ce que je dis, mais c'est juste pour dire que beaucoup d'ouvriers, en fait, veulent que leurs enfants n'en deviennent pas, donc il n'est pas étonnant qu'on ne sache pas combien on est et que finalement, on ne soit pas si fier que ça et qu'on ne se fasse pas tant entendre que ça. Voilà, merci, c'était Cathy de Toulouse. Au revoir.
Et bonjour à toutes et à tous, Cyril de Sauvet dans le 49, j'écoute l'émission là sur les ouvriers, et notamment le répondeur, oui Paul, je suis d'accord avec toi Paul, totalement d'accord, comment les ouvriers ont-ils pu à ce point se laisser berner, et en 2007 ça a été l'apogée évidemment, mais depuis des années, bien avant le sarkozisme, voilà quoi, comment ont-ils pu devenir à ce point oublieux. C'est une question que je me pose tous les jours. Vraiment, je suis issu du monde ouvrier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, j'essaie de comprendre, mais j'approuve pas du tout. Voilà, c'est quelque chose qui me dépasse. Voilà. Mais écoutez, bonne journée à vous tous. Ciao.
Bonjour, voilà. Concernant le monde ouvrier, moi, il y a un aspect que je trouve assez révélateur et qui est un peu occulté. Parce que, bon, moi, je fais partie d'une génération. Je suis né dans les années 50. Et bon, donc quand j'étais jeune, notre idée, c'était vraiment d'échapper à l'usine, quoi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de chômage, peut-être on était idiots, peut-être, je sais pas, mais c'était comme ça. Et je trouve que c'est un monde où, enfin, un des plus grands soucis des ouvriers, c'était quand même que leurs enfants fassent un autre métier, quoi. Alors, je sais pas si on peut faire un lien avec le fait que les ouvriers maintenant sont attirés par le vote Front National, mais on retrouve comme dans cette attitude, cette espèce de dépression typiquement française, où d'un côté, on demande beaucoup de reconnaissance, on fait appel à une fierté qui est légitime d'ailleurs, hein, et en même temps, on s'aime pas. Et en même temps, on s'autodétruit, puisque on veut pas que ces enfants fassent le même travail. Je trouve ça un peu étrange, un peu révélateur, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, au revoir, je m'appelle Denis, j'appelle du Gard.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, j'ai bien entendu l'émission aujourd'hui sur les ouvriers, qui était très intéressante. Moi-même, j'étais ouvrier intérimaire pendant 10 mois, je me suis jeté comme une merde, on peut dire ça, quoi, pour un accident de travail, enfin, peu importe. J'ai appelé parce que j'entendais ton cinéaste, là, il disait qu'en fin de compte, les ouvriers d'extrême droite, le pénis se cachait, quoi. Et moi, je peux te dire que les paroles étaient ouvertes à ce niveau-là, et qu'il y avait même du militantisme dans cette entreprise. Je travaillais chez Beneteau, et pas mal de gens, pas mal d'ouvriers, disaient ouvertement leurs idées d'extrême droite. Voilà. Mais merci pour tes émissions. À très bientôt.
Bonjour Monsieur Mermet. Bah écoutez, suite à l'émission sur la classe ouvrière, peut-être avez-vous omis, dirais-je involontairement, de citer Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière. Merci encore de vos émissions.
Les ouvriers, les ouvriers, les ouvrières. Merci Bénédicte de Lille.
Eh bien, c'est vrai, ça, Bénédicte de Lille. On n'a pas beaucoup parlé des ouvrières hier. Dans les deux films, celui de Gilles Perret et celui d'Olivier Azam, ces deux documentaires qui prennent pour sujet le monde ouvrier, la classe ouvrière, eh bien, il y avait effectivement pas beaucoup d'ouvrières dans ces deux films. Voilà, et on a encore oublié les ouvrières. Mais très judicieux, ces deux messages pour répondre à la question « Mais où est passée la classe ouvrière ?» C'est que on n'a pas envie que les enfants soient ouvriers. Donc, il y a une sorte oui, une disparition progressive, au moins au niveau de l'image. Le working class hero a tout jamais disparu, à tout jamais. allez savoir, d'autant qu'aujourd'hui, on va passer cette heure avec quelqu'un qui aime vraiment le monde ouvrier, avec quelqu'un qui comprend le monde des ouvriers et des ouvrières aussi, bien sûr, et qui les défend et qui est un véritable militant. Je veux bien sûr parler de l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, qui sera, vous le savez bien sûr, l'invité de France Inter du 7-9 de demain matin. Mais il est déjà notre invité dans la Bastille ici. Aujourd'hui, avant, pour vous préparer à demain, pour vous affûter les oreilles pour demain, on va passer cette heure avec Damon Mayafre. Qui est Damon Mayafre? C'est un chercheur en linguistique, un professeur qui étudie le langage, qui étudie les mots avec une assistance, avec un ordinateur, assisté par ordinateur, et qui a pris tous les discours de Nicolas Sarkozy depuis 2007, cinq années de discours. Il les a tous analysés mot à mot, des millions et des millions de mots, et il en a tiré un certain nombre de conclusions. C'est une approche tout à fait, évidemment, scientifique. On avait déjà rencontré Damon Mayafre il y a un certain temps sur le discours, justement, de Jacques Chirac, et il avait révélé quelque chose, c'est que le mot qui revenait le plus souvent dans la bouche de Jacques Chirac, dans ses discours, c'était le mot « naturellement, naturellement, naturellement ». Voilà, on va voir ce qu'il a trouvé sur celui qui sera demain matin l'invité de France Inter. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Comment peut-on prétendre incarner l'alternative à la droite et faire adopter le mécanisme européen de stabilité ce mardi 28 février au Sénat où les socialistes sont majoritaires? Avec ce fonds monétaire déguisé, tout financement des États sera subordonné à des coupes dans la dépense publique et ses budgets d'avenir. Ce fonds monétaire européen donne toute sa résonance au nom de gauche lors du traité européen en 2005. En 2012, le peuple de gauche va-t-il s'opposer à ce nouveau bras armé de la finance? Régis de Nîmes.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, à tous les AMG de France et de Navarre. Je m'adresse plus particulièrement aux AMG du Pas-de-Calais pour leur rappeler qu'on a notre repère ce jeudi 1er mars à partir de 18h30 avec un invité qui est un objecteur de croissance et qui s'appelle Clément Whitman. Donc venez nombreux, à bientôt.
Bonjour. Samedi, mon papy est mort. Et pas vraiment mon grand-père, c'était le mari de ma nourrice. Je l'ai toujours connu, beaucoup plus que mes deux vrais grands-pères. Je ne l'ai pas vraiment vu beaucoup. Il était ronchon, grognon. Il était raciste. Il détestait les Noirs, les Arabes, les Italiennes aussi. Un comble, lui qui était marié avec une Italienne. Il est parti samedi. Il avait Alzheimer. Quelque chose de très dur. Non, dans les derniers mois, il ne me reconnaissait même plus. Ça a été très dur. J'ai du mal à m'y faire. Il avait beau être assis, c'était quand même mon papy. J'adorais quand j'étais petit qu'il me faisait des frites. C'est con, mais c'était très bon. J'aurais plutôt consulté un psy, ça fait deux jours que je rêve de lui. Il parle plus. Maintenant, il est mort. Je dirai plus jamais mort au con. Je souhaiterai plus jamais la mort des racistes. Qu'on en connaît tous un, qu'on aime bien. Et que celui-là, c'était mon papier. Au revoir. Merci, Daniel.
La Mais je vais vous parler très franchement.
Peuple français, on prend tout.
Alors, là, j'ai le condensé du sarkozisme.
La crise économique. C'est un tableau avec plusieurs colonnes qui apparaît.
Ça ne peut plus durer.
Ah oui, voilà, les mots
Bonne parole.
Prennent des couleurs différentes.
Et c'est à vous que je veux parler.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil et Damon Mayafre. Nicolas Sarkozy, ça ne peut plus durer.
Damon Mayafre, on vous retrouve dans votre bureau de l'Université de Nice, laboratoire base corpus langage, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire avec une double tutelle, CNRS d'une part, Université de Nice d'autre part.
Et peut-être que les auditeurs se souviennent qu'on vous avait rencontré en 2005 et en 2007 à l'occasion de vos premiers travaux sur la parole présidentielle. Vous essayez d'avoir une méthode rationnelle pour analyser, pour comprendre l'ordre du discours, le fonctionnement du discours et la parole présidentielle. Et on s'était rencontré à propos de Chirac. Et ce que vous aviez pointé, c'est qu'un des mots les plus récurrents du discours de Chirac, mis à part l'espèce de vacuité dans le fond et les automatismes de langage qui ressortaient, c'était des mots comme « naturellement », qui avaient le bonheur et l'heure de transformer des contradictions absolument insolubles en quelque chose de naturel et de spontané. Et là, nous vous retrouvons donc, Damon Mayafre, dans votre laboratoire, pour travailler sur votre nouveau cobaye, sur votre nouvelle expérience. Vous avez depuis affiné votre méthode, vous avez des plus en plus grosses machines, on voit des cages au fond, on voit des personnages qui passent en boules blanches, et voilà notre nouveau cobaye, c'est notre actuel président Nicolas Sarkozy. Alors expliquez-moi un tout petit peu de quoi il s'agit, pour remettre les auditeurs dans le bain, parce que là, on part dans de la science dure.
En fait, la règle du jeu est assez simple. Il s'agit de saisir l'ensemble des discours du président actuel, candidat en 2007 et actuellement du candidat en 2012, et essayer de comparer ces discours avec le discours politique moyen ou le discours présidentiel moyen. Donc, d'une part, j'ai saisi les discours de Nicolas Sarkozy.
Mes chers compatriotes, la crise économique et financière...
Et d'autre part, j'ai saisi les discours de Gaulle.
Française. Et non français, ceux qui ont perdu leur mais emploi, si l'univers est troublé,
Pompidou,
et voici elle ne l'est pas. Que je pense aux 845 000 petits Français.
Giscard,
bonsoir. L'année s'achève dans quelques jours et j'ai pensé qu'il était normal.
Les deux Septennats Mitterrand.
Mes chers compatriotes, parmi les événements qui marqueront l'année.
Et 80. Le Septennat et le Quinquennat Chirac.
Chers compatriotes, vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France.
Combien de discours vous avez rentré, que vous avez traité?
Alors au total, j'ai environ 1000 discours. Et en ce qui concerne simplement Sarkozy, j'ai 200 discours. Et ensuite, nous avons donc un logiciel, Hyperbase, qui nous permet de décrypter et de faire ressortir les mots significatifs de Nicolas Sarkozy, mais non seulement les mots, mais aussi les tournures de phrases, mais encore les codes grammaticaux, s'il fait un surusage ou non du présent indicatif, par exemple, s'il utilise plutôt les noms ou les verbes, etc. Alors certes, on n'a pas la prétention de dire le sens absolu d'un discours, ça on sait que ce n'est pas possible, parce que le sens est toujours construit, toujours la source d'interprétation, mais on peut néanmoins objectiver des parcours de lecture loin de l'agitation, on va dire, politique, contrôler autant que faire se peut le parcours interprétatif. Dans le but, évidemment, de comprendre mieux le fonctionnement général du discours, mais en l'occurrence, pourquoi pas éclairer le citoyen sur peut-être les procédés manipulatoires ou les thématiques, plus objectivement, des discours. Et il faut dire que Nicolas Sarkozy est un très très bon cobaye, dans la mesure où son discours est beaucoup plus complexe qu'on le pense, beaucoup plus riche qu'on le dit, qui, je crois, mérite une attention et mérite les outils que l'on développe ici pour essayer d'en avoir une vision un peu plus objective.
Alors, Damon Mayafre, voyons voir à quoi ressemblent ces outils et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur la parole de Sarkozy.
Salariés, Pourtant, croissance, réforme, maturité.
Il y a des graphiques avec des chiffres, avec des noms, avec des sphères, avec des représentations dans l'espace des mots. Recette, rhétorique, amplification, hyperbole lexicale, anaphore. Co-occurrence indirecte.
Française, français.
Mes chers compatriotes.
Je souhaite. Mais en notre nom à tous,
l'année 2010,
une bonne année à la France.
Ensemble,
pour beaucoup je le fais en toute
nouvelle
confiance.
La crise économique et financière,
non point que 1961 doive être une année sans épreuve.
Voilà une façon d'analyser et d'essayer de comprendre à travers des analyses extrêmement savantes et complexes le sens du discours politique. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est celui de Nicolas Sarkozy. Damon Mayafre, aux éditions Sciences Po, publie ce bouquin qui s'intitule « Mesures et des mesures du discours ». Mais on l'a déjà rencontré, Guy vient de vous le dire. Il avait fait notamment, à travers un ouvrage intitulé « Discours présidentiel », une analyse de l'évolution du discours politique entre 1958 et 2007. Et il était arrivé à un certain nombre de constats et d'analyses qui indiquaient à quel point, avec au début, enfin en 58, c'est-à-dire au moment de la création de la Ve République, d'abord, on a des mots forts, de nature nominale, et peu à peu, le discours, au détour des années 80, change. C'est la forme qui va l'emporter sur le fond. Et le dit s'efface au profit du dire. L'énonciation abolit l'énoncé. Et le « je » des présidents se substitue au peuple. On dit « je souhaite que, je veux que, je ferai » au lieu de parler du peuple, le peuple veut, etc. Il y a un changement important. Le « moi » remplace la France. De Gaulle, c'était la France. Et maintenant, c'est « moi, je ferai, je dirai, etc. » Et peu à peu, le leader remplace l'idée. La pensée devient communication. C'est au terme de ce boulot étonnant, en mettant des quantités de mots les uns à côté des autres, à l'intérieur d'un ordinateur, avec une cuisine extrêmement savante, que Damon Mayafre est arrivé à ce genre de constat. Aujourd'hui, donc, analyse du discours de Nicolas Sarkozy et des résultats et des analyses et des surprises jusqu'à 16h dans la basse où j'y suis. Ça ne peut plus durer.
La langue de bois. La langue de bois, pour dire qu'on triche avec les mots, pour dire qu'on ment, et de surcroît qu'on insulte aussi les hormones. Oh oh. Faut-il que l'homme soit macabre pour blasphémer la langue d'arbre, la langue du bois, la langue du bois. La langue de bois, la langue de bois pour désigner paroles vaines. T'es insulté ma fibre à moi, la sève qui vit dans mes veines. Jappez beaux messieurs sans remords, vous valez pas un sycomore. La langue du bois, Yemma.
Ah oui, je vois, là, les mots prennent des couleurs différentes.
Il s'agit de prendre des décisions.
Oui, ben voilà, là le logiciel permet de faire ressortir les mots parmi les 100 000 phrases du corpus.
Capitalisme.
Alors voilà le résultat de votre ordinateur.
Alors là, j'ai le condensé du sarkozysme.
C'est un tableau avec plusieurs colonnes qui apparaît.
Où on voit donc les mots, je le répète, caractéristiques de Sarkozy par rapport à De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac.
Juste pour faire un petit rappel, les quelques mots qui marquent De Gaulle, Pompidou, Mitterrand.
Alors, bah, par exemple, il suffit de cliquer, mais De Gaulle, c'est un discours très nominal avec des mots très forts comme nation, patrie, Algérie aussi, pour des raisons conjoncturelles, peuple, évidemment. Mitterrand, on le sait, c'était un discours beaucoup plus égotique, beaucoup plus centré sur sa propre personne, avec un jeu omnipotent, un jeu pense, qui revient pratiquement un jeu tous les 45 mots chez Mitterrand. Au bal des égaux, Mitterrand est supérieur à Nicolas Sarkozy. En revanche, Mitterrand disait « je pense » lorsque Nicolas Sarkozy dit « je veux ». Voilà, et Chirac, effectivement, ce sont surtout les adverbes, c'est dire que c'était un discours qui n'avait pas beaucoup de contenu et qui se marquait surtout par cette volonté de s'inscrire dans le « ici et maintenant » du discours.
Alors voilà les mots proprement sarkozystes recrachés par l'ordinateur, si j'ai bien compris.
Tout à fait, avec un indice statistique que vous voyez à côté, on appelle ça un indice de spécificité, donc qui est tout à fait chiffré. Alors le mot sarkozyste, s'il en fallait en choisir un seul, c'est ça. Donc le pronom...
C'est lequel ?
C'est ça, c'est dit à...
Ça ?
Oui, ça. Le pronom démonstratif neutre, dans une forme vulgaire, Sarkozy, par exemple, répète sans cesse, ça ne peut plus durer. Ça suffit comme ça. Et derrière ce mot, loin de penser que c'est simplement un tic de langage, si on l'analyse, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a tout le sarkozysme dans la version qui se révèle, me semble-t-il, aujourd'hui dans la campagne, qui a été notée par beaucoup de chroniqueurs, c'est-à-dire dans cette dimension populiste républicaine qui, avec le «
ça ne peut plus durer »,
peut désigner au fond tout et n'importe quoi sans vraiment préciser le contenu. Mais en revanche, vous pouvez adhérer à ce ras-le-bol.
C'est vrai, quoi. Ça ne peut plus durer.
Ben oui, c'est assez insupportable. La situation ne peut plus durer comme ça.
Faut donc se mettre d'accord sur que veut dire le ça.
Voilà, on ne sait pas si le ça désigne les salaires de Madame Bettencourt ou le cheminot cégétiste qui fait grève.
Ou les immigrés.
Les immigrés, mais on est amené à communier. Donc là, c'est là où c'est important. On est amené à communier entre donc le leader charismatique qui est Sarkozy, et le peuple, sur ces idées reçues, au fond, en deçà de l'argumentation. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'argumenter ce qui ne peut plus durer. Il suffit qu'il le prononce.
Alors ça, il le dit combien de fois ?
Alors, ça, il le dit tout simplement 663 fois dans le corpus, alors que les autres présidents, tous additionnés, n'utilisent que 1153 fois. Donc, depuis 1958, Sarkozy en concentre presque la moitié.
Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer.
Que ça ne pose aucun problème.
Ça ne peut plus durer.
Et que ça fasse débat chez nous.
Ça ne peut plus durer, cher Michel.
Si vous me posez la question de savoir si ça me choque, la réponse est non.
Oui, alors je vais vous montrer quelques exemples très concrets.
Et là, pendant que vous parlez, je vais vous appuyer sur votre bouton. Il y a plein de graphiques très compliqués, des chiffres et des projections qui apparaissent sur l'écran.
On essaye effectivement de développer des graphes de concurrence pour essayer d'attraper au plus près le sens des discours ou au moins des parcours interprétatifs. Juste, je vous montre quelques exemples de ça.
Et là, je vois quelques-unes de ces phrases du 7 février 2007 à Toulon.
Ça ne peut plus durer.
Ça ne peut plus durer l'assisté qui gagne plus que le travailleur.
L'assisté gagne plus que le travailleur. Ça ne peut plus durer.
L'école qui n'apprend pas à lire, à écrire, à compter correctement.
N'apprennent pas à lire, à écrire, à compter correctement.
Ça ne peut plus durer la violence des multirécidivistes. Ça ne peut plus durer le petit voyou et le patron voyou qui reste un peu nid. Ça ne peut plus durer les parachutes en or pour celui qui échoue. Ça, les stock options réservées à quelques-uns. Ça ne peut plus durer la discrimination, l'inégalité des chances, la panne de promotion sociale, ça ne peut plus durer les femmes.
Vous voyez, il y a cette affirmation et cet appel à l'acquiescement des gens qui écoutent sur le fait que ça ne peut plus durer avant la démonstration. Donc il y a la communion, si vous voulez, avant la démonstration. Le ça, au fond, est une façon de montrer à tout le monde ce que chacun veut bien voir. C'est un peu le prêcheur qui dit « Oh, regardez !» et toute la foule qui regarde dans cette direction et qui finit par trouver ce qu'elle a envie de voir, puisque le « ça » n'a pas, donc en linguistique, c'est ce qu'on dit, n'a pas un contenu référentiel. Il n'y a pas un contenu objectif dans le « ça suffit comme ça ».
Mais donc, Sarkozy nous montre ça, mais avec votre méthode, on peut regarder l'origine de ce « ça ». en montrant que celui qui énonce le ça est plus important que le ça qu'on pense énoncer.
Oui, mais il y a un peu de ça. Il y a
c'est pas mal. Vous devenez sarkozyste, attention.
C'est le cas de le dire. Mais oui, la méthode permet, dans le meilleur de cas, de voir presque les messages subliminaux qu'une oreille humaine, j'allais dire, ne peut pas complètement me percevoir. Je pense que ça a une influence, évidemment, comme tous les messages subliminaux. Mais oui, la statistique, pour cette raison, est très précise. Et très précieuse, surtout.
Et c'est à vous que je veux parler aussi. Et je sais,
mes chers compatriotes, d'ici à Toulon, l'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude pour beaucoup d'entre vous.
« Parle aux dépens de celui qui l'écoute, vous vous souvenez ?»« Eh oui, le flatteur parle aux dépens de celui qui l'écoute. » C'est une vieille histoire que celle du discours, celle du prêcheur, celle du tribun, celle du leader politique qui sait trouver les mots qui embobinent, des mots qui, mis les uns à côté des autres, prononcés d'une certaine façon, dans une certaine, parfois dans certains lieux. C'est une chose de parler dans une cathédrale, c'en est une autre de parler comme je le fais derrière un micro ou entre amis, bien évidemment. Et ça produit un certain nombre d'effets dans les esprits, dans les imaginations, bien au-delà ou bien en deçà du sens apparent qui serait porté par les mots. Les mots ont leur propre vie et produisent certains effets. On sait tout ça de manière empirique, de manière, on va dire, pour employer le mot repéré chez Chirac, naturellement. Mais il y a aussi l'approche scientifique, celle du linguiste, celle aussi de l'historien, qui, en analysant scientifiquement tous ces mots, en mettant des millions de mots les uns à côté des autres dans un ordinateur, permet d'arriver à certaines conclusions, évidemment pas à la vérité, c'est pas une révélation. Mais disons que ce qui nous intéresse là-dedans avec l'ami Guy Vanctil, c'est le côté éclairage à jour frisant. Vous voyez ce que c'est l'éclairage à jour frisant ? Ça fait ressortir certaines choses sous un éclairage un peu inattendu. Et c'est l'éclairage que propose Damon Mayafre sur le discours présidentiel.
Alors, juste, je continue, on ne va pas éplucher non, toute la liste.
Mais quand même, parce que de voir les termes qui apparaissent.
Là, c'est quand même par ordre hiérarchique. Et regardez le deuxième mot caractéristique de Sarkozy, il fait tout à fait écho, c'est le « on ». Et là aussi, c'est un mot assez magique, c'est un pronom personnel là pour le coup, qui, tous les linguistes l'ont remarqué, joue sur le flou référentiel, c'est-à-dire là encore, on ne sait pas qui est derrière ce « on ». Très récemment, à Marseille, Sarkozy a fait une longue anaphore rhétorique habituelle. On abaisse la France quand on fait ceci. On abaisse la France quand... Et derrière ce « on », c'est pas trop... On se doute qui est visé. On se doute bien que c'est la gauche, que c'est François Hollande. Mais enfin, ce n'est pas désigné. Et donc là aussi, je crois qu'il joue de ce flou pour rentrer en résonance avec les idées reçues du moment, sans avoir à préciser son argumentation.
Nous sommes bel et bien en présence, mesdames et messieurs, d'une économie mafieuse, avec elle on prend tout au créateur, on lui rend un peu, on le vole d'abord, on l'achète ensuite.
Le « on », grâce à son flou, lui permet de désigner un adversaire sans jamais le nommer. Donc par exemple, et ça m'intéresse parce que c'est sa cérémonie d'investiture.
Donc le 16 mai 2007.
Son premier discours officiel de président. Et il dit, le 6 mai, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, le peuple français.
Le 6 mai, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, le peuple français. Le peuple français qui est grand parce qu'il ne veut pas renoncer, parce qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans l'immobilisme. Parce qu'il refuse le conservatisme.
Qui ne veut pas renoncer, qui ne veut pas se laisser enfermer dans l'immobilisme et dans le conservatisme, qui ne veut plus que l'on décide à sa place.
Le peuple français qui ne veut pas que l'on décide à sa place et qui, par-dessus tout, ne veut plus que l'on pense à sa place.
Que l'on pense à sa place. Quel est ce on maléfique qui prétend penser à la place du peuple français ? On sait désormais avec cette phrase, qui prétend l'incarner, le peuple français, ouais. En l'occurrence, hein, c'est Nicolas Sarkozy. Regardez cette phrase.
20 mars 2007, discours à Villebon sur Yvette.
On vous a souvent trompé, je le sais. Donc une balance là, très jolie entre ce « on maléfique » et « indéfini » et ce « je » qui se montre dans toute sa sincérité et dans tout. Donc on vous a souvent trompé, je le sais. On vous a parfois menti, je le sais. On vous a même trahi, je le sais. Et pourtant, vous êtes là. Donc, vous voyez, le balancement et toute la richesse ici qu'on appelle énonciative entre le « on », le « je », le « vous ». Tout le monde est au fond est servi.
En gros, si je voulais résumer, on a raison de penser ça.
Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus.
Et quand on ne prend pas les moyens de faire respecter cela, on a l'explosion du système social qui est le nôtre.
Et une des façons de procéder de Nicolas Sarkozy, c'est d'utiliser ce « on » pour jouer de ce flou. C'est-à-dire qu'au final, c'est toujours l'auditeur qui va trancher sur le contenu de ce « on ». Mais surtout, il joue de ce flou pour parfois s'exclure, parfois s'impliquer. Mais dans tous les cas, au bout du processus, vous êtes avec Nicolas Sarkozy. Je vous cite deux exemples contraires. Par exemple, regardez, comme toujours, une belle interrogation, une double interrogation. Pourquoi des médecins, des femmes et des enfants qui soignent sont-ils agressés et ont-ils peur dans les quartiers, dans les banlieues? Comment peut-on l'accepter? Donc, vous et lui, vous êtes à l'extérieur de ce on qui accepterait que l'on agresse des médecins, des femmes et des hommes qui soignent.
Et quand on ne prend pas les moyens de faire respecter cela, alors on a l'explosion du système social qui est le nôtre.
Deuxième citation, dans le sens inverse.
C'est celle du 5 février 2007 à TF1 à 20h.
Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France, mais quand on habite en France, on respecte ses règles, c'est-à-dire qu'on n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement et on respecte les règles républicaines. Donc là, qui est dans le « on »
Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un vrai salopard, ce « on ».
Ici, pas vraiment. Regardez. Oui, oui, tout à fait, mais vous habitez en France quand même.
Ouais.
Nicolas Sarkozy habite en France, donc vous êtes associé avec lui et vous n'acceptez pas la polygamie.
Non,
vous n'acceptez pas l'excision. Non. Donc vous êtes avec Nicolas Sarkozy dans ces « on » qui n'acceptent pas ici. Donc vous voyez le processus comme il est habile, grâce simplement à un mot qui est d'ailleurs un gallicisme, hein, qui est un mot très rare dans les autres langues. Oui, il est très rare, l'équivalent est très rare dans les autres langues. Et c'est un mot magique puisque c'est à la fois un pluriel et un singulier. C'est aussi un pronom personnel, mais que beaucoup de linguistes qualifient d'impersonnel puisqu'il s'est... pratiquement une non-personne. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy est tout à fait conscient des vertus linguistiques de ce terme-là, mais il se trouve que la statistique nous montre que c'est un de ces mots qu'il suremploie massivement.
Je suis très content d'être là. J'espère qu'ils vont les écraser et qu'on va gagner. On a un président extraordinaire.
Voilà, c'est un excellent capitaine et tout le Var est derrière lui.
C'est le meilleur président, Nicolas. Dieu à moi, il veut la France forte.
Et on est parti à 5h du matin. On vient du Doubs. On est ultra motivé. Et comme vous l'entendez derrière moi, on va gagner.
On va gagner. Côté Sarko.
Je pense que le prochain président de la République, jusqu'à 2007, ce sera Nicolas Sarkozy.
Ensemble, nous sommes maintenant mobilisés à fond pour la victoire de Nicolas Sarkozy. Nicolas, tu peux compter sur nous. Nous sommes avec toi pour la France.
Le président Nicolas Sarkozy a apporté sans relâche les réponses que la situation nationale, internationale, européenne exigeait. Il faut plus que jamais un homme d'État pour diriger la France et pas le chef du Parti Socialiste de la rue Solferino.
si c'est Bénur, COVID-19, absolument formidable ce qu'on entend là. Mais je me souviens quand j'étais gamin, j'étais très critique envers De Gaulle. Et ma mère me disait, oui, bon, toi, tu pourras le critiquer quand tu parleras comme lui. Hein. Tu te rends compte comment il parle, cet homme-là? Et c'est vrai que le discours de De Gaulle était extraordinaire. Dans un français fleuri, précis, travaillé, improvisé, souvent, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que, par la suite, les présidents successifs ont utilisé un langage avec des superlatifs, avec des renvois de phrases, etc., jusqu'à ces adverbes de Chirac, mais enfin toujours avec une certaine distance, un certain ton, et avec Sarkozy, non, là c'est vraiment... Alors, là, on passe en dessous du langage de l'oralité. On espère, on essaye d'avoir une proximité avec l'homme de peu, l'homme ordinaire, le commun des mortels. Mais derrière ce rapprochement, derrière cette simplification, ces phrases courtes, répétées, etc., il y a bien sûr... une idéologie, ce qui est revenu avec Sarkozy en 2007, c'est bel et bien l'idéologie. Vous vous souvenez, il n'y en avait plus d'idéologie. Hein. En 89, c'était terminé. Idéologie, ça voulait dire gauche, communisme, enfin toutes ces horreurs qui mènent au goulag. C'était terminé. Et puis c'est revenu, mais c'est pas revenu par la gauche, c'est revenu par la droite avec Sarkozy en 2007. Et cette idéologie, elle est portée par des mots, mais elle n'est pas toujours en avant. Elle est derrière les mots, elle est dans les mots, elle est dans ce que les mots dégagent, dans l'auréole, on pourrait dire, des mots, et pas toujours dans le mot lui-même. Et c'est ce travail, là je parle d'une manière approximative, volontairement, c'est le flou référentiel auquel je me référence, je fais référence, mais on peut, c'est ce que croit quelqu'un comme Damon Mayafre, à travers un travail scientifique, arriver à dégager un certain sens, au moins par la statistique. Là, on voit comment le « ça » revient très souvent dans le langage de Nicolas Sarkozy, ou bien le « on » qui permet de désigner sans nommer. On est avec Damon Mayafre, autour de son bouquin « Mesures et des mesures du discours » de Nicolas Sarkozy.
C'est passionnant de voir comment effectivement l'ordinateur va pointer ce qui a été ressenti par tous les commentateurs et tous les humoristes qui montrent un président qui se pose des questions à lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est frappant et que les autres présidents ne pratiquaient pas. Et il a en fait un usage tellement systématique que j'étais obligé d'essayer de réfléchir à la fonction dans le discours de cette interrogation rhétorique. Alors je distingue au moins quatre fonctions, peut-être pas toutes les développer, mais qui sont là encore phrase après phrase, je sais pas, 20-30 fois dans chaque discours. Donc hein, c'est pas
anecdotique, quoi.
C'est pas anecdotique. Une façon évidente de fonctionner, et là les humoristes se sont amusés à vraiment le caricaturer, c'est au fond de détourner le discours. C'est-à-dire que très souvent, Nicolas Sarkozy, si vous lui posez la question « Mais pourquoi le chômage augmente ?» point d'interrogation, il va vous répondre « Mais la vraie question, c'est pourquoi faudrait-il pas que les travailleurs soient indemnisés ?» Donc il va reformuler votre question pour se poser une question ad hoc pour laquelle il a une réponse. Donc ça, c'est gagnant à 100%, puisqu'il va définir lui-même le périmètre des bonnes questions à se poser. Et la force de Nicolas Sarkozy, c'est pas tant qu'il a les bonnes réponses, c'est qu'il apparaît comme celui qui a les bonnes questions. Il pose les questions auxquelles il y a des réponses, et du coup, il apparaît comme celui qui détient toutes les vérités, puisqu'il n'est jamais embarrassé par les questions, puisque c'est les questions qu'il se pose à lui-même.
Mais je vais vous parler très franchement. Je suis proprement sidéré. On nous demande de pratiquer un désarmement unilatéral à l'égard du piratage. Mais qu'est-ce qui restera des créateurs une fois qu'on les aura désarmés ?
Je n'en sais rien. Pour vous dire la vérité, je me demande moi aussi.
Qu'est-ce qui restera de la création une fois que celle-ci n'appartiendra plus à ses auteurs ?
Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas répondre à cette question.
De quoi vivront les créateurs ?
Désolé, vous m'avez collé avec cette question.
Qui les protégera ? De mécènes ?
Je suis désolé, je ne connais pas cette réponse.
Il faudra que chacun d'entre vous soit bien gentil avec des femmes et des hommes ayant des moyens et qui, à leur temps libre, accepteront de les sponsoriser. C'est ça que l'on veut ?
Bonne question. Je n'ai vraiment pas d'opinion. J'essaie de me contenter de ce que j'ai.
Alors à quoi sert-il de dire qu'il y a une culture française, qu'il y a une œuvre française, qu'il y a un patrimoine culturel français, si nous ne sommes pas décidés à le défendre, à lui donner les moyens d'être diffusé?
Pardonnez-moi, plus largement. Je ne sais pas répondre à ce genre de questions. J'évite les discussions spirituelles et théologiques.
Donc ça, c'est une première fonction. L'autre fonction, qui est alors un peu plus pernicieuse, c'est des questions pour lesquelles vous avez la réponse et vous partagez a priori la réponse avec lui. Trouvez-vous normal que des personnes puissent être agressées dans la rue?
Donc,
donc ça, c'est quelque chose qu'il pratique énormément. Il pose des questions de bon sens, au fond, mais qui ont une vraie fonction dans le discours, qui est d'obliger l'auditeur, en adhérant à la réponse, à adhérer à l'ensemble du discours, aux prémices, à l'argumentation, à l'idéologie qu'il y a derrière. Donc ça, c'est... Et puis, il y a le dernier type d'interrogation, peut-être le plus pratiqué, c'est cette façon de contre-interroger son auditoire, et particulièrement les journalistes. À chacune des questions un peu gênantes qu'il va recevoir, il est susceptible de répondre par une contre-interrogation, plus violente encore, souvent, plus manichéenne, par exemple sous la forme du oui-non. Vous rappelez ce passage qui est très désobligeant pour Claire Chazal, à propos de la circulaire française contre les Roms, qui avait été montrée du doigt par la Commission européenne, et qui finalement avait été retirée, et ça, l'affaire avait été étouffée. Il n'empêche que Claire Chazal pose la question, et là, Nicolas Sarkozy dit, mais est-ce que la France a été condamnée par la Commission? Oui ou non?
Oui ou non, Madame Chazal? La Commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal? Oui ou non?
Elle ne veut pas rentrer dans le débat. Et là, il soulève le pavillon de son oreille. Et il dit oui ou non, je n'ai pas entendu votre réponse.
Je n'ai pas entendu votre réponse.
Sans doute, oui, bien sûr.
Ah bon, bon.
Finalement.
Deuxièmement.
Mais il y a eu un émoi.
Non. Oui ou non?
Le oui-non est très significatif chez Sarkozy. Dans ce cadre-là, retourner la question vers les journalistes, comme le fait quasi systématiquement Nicolas Sarkozy, c'est retourner les rôles. C'est-à-dire que ce n'est plus un président qui a à rendre des comptes à l'opinion publique via la presse, mais c'est une presse, une élite qu'il soupçonne de collusion avec l'opposition ou que sais-je, qui se trouve interrogée par le président, qui est mis en accusation. Donc à chaque interrogation que la presse peut porter à Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy est capable de répondre par un contre-interrogatoire d'une certaine manière. Et ça, la statistique le fait ressortir aussi, puisqu'il y a une phrase sur 10 qui est interrogative dans le discours de Nicolas Sarkozy. Chez De Gaulle, c'est une phrase sur 100.
C'est-à-dire que Sarkozy pose une question toutes les 10 phrases.
Exactement. Il a une phrase sur 3 qui est négative, et une phrase sur 10 qui est interrogative. Et ce sont des proportions qu'on ne retrouve pas, non seulement chez De Gaulle, mais chez Mitterrand, ou chez Chirac, ou chez Pompidou, Giscard.
On me décrit comme quelqu'un qui, depuis 20 ans, irait chez Madame Bettencourt pour ramasser des enveloppes. C'est une honte. Vous m'imaginez venant à un dîner, devant les convives à table, et repartant avec de l'argent? Vous imaginez qu'on peut dire que je suis un intime de monsieur et madame Bettencourt parce qu'en 17 ans, au dire du maître d'hôtel, je m'y suis rendu deux ou trois fois et quand bien même.
La force de ce procédé-là, c'est que le journaliste n'est pas habilité à entrer dans le débat. Donc Nicolas Sarkozy, c'est là où c'est habile, feint de croire que le journaliste peut être un contradicteur, alors qu'il sait très bien que, ici Claire Chazal, un autre journaliste ailleurs, ne va pas lui apporter la contradiction. Ça serait une quasi-faute professionnelle, pourrait-on dire. Donc il fait semblant d'avoir, au fond, en face de lui, une opposition, alors qu'il n'a que des faire-valoir. Et il joue de cette interrogation qui, la plupart du temps, reste sans réponse, ou alors se traduit par un acquiescement du journaliste. Alors, je pourrais vous citer des exemples très concrets de cet usage que j'appelle usage polémique. C'est par exemple à propos des écoutes téléphoniques du journaliste du Monde.
Ouais.
On lui pose cette question-là dans l'affaire Wirth, et là, il répond par une un contre-interrogatoire. Et il va très loin. Donc il commence à regarder cette série de questions. Allez plus loin dans votre question, monsieur Poujada, je crois. Vous imaginez que c'est moi qui ai organisé le cambriolage d'un ordinateur portable d'un de vos confrères? Donc effectivement, on imagine Nicolas Sarkozy lui-même nuitamment aller chercher dans le domicile du confrère. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Poujadas ne peut pas aller plus loin dans son interrogation. Et puis, regardez comment ça va beaucoup plus loin et où on revient sur un terrain idéologique plus fondamental à travers cette question-là. Excusez-moi, mais il n'y a eu qu'un seul président dans l'histoire française qui a fait écouter les journalistes. Ce n'est pas moi, comme vous le savez. Il est à gauche. Oui ou non? Oui ou non? Il répète deux fois oui ou non. Donc c'est quelque chose de très profond, de très très habile dans le cadre télévisé. Je voudrais juste dire quelque chose de plus un peu plus fondamental sur cette interrogation rhétorique, c'est que je pense que l'ensemble de ces séries de questions qui sont des fois, je le répète, associées ou à la queue leu-leu, 10, 15, 20 questions successives dans les discours de meeting notamment. Je pense que cette façon d'interpeller, de poser ces questions, ne peut fonctionner que parce qu'il est persuadé d'une victoire idéologique beaucoup plus profonde, c'est-à-dire au-delà de telle petite question sur tel petit sujet. La question que quand même Nicolas Sarkozy pose fondamentalement, c'est « Y a-t-il un système alternatif au capitalisme ? Oui ou non ?» Alors après, c'est décliné par des petites questions, mais quelque part, s'il se permet d'être aussi... on peut dire arrogant, hein, dans cette façon d'interroger, d'interpeller, c'est qu'il est sûr de sa victoire idéologique fondamentale. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que justement, cette assurance, peut-être, après la crise de 2011, peut-être s'effrite un petit peu. Et il y a peut-être des gens qui commencent à oser répondre ou à lui poser, à lui renvoyer ses questions, dire « mais oui, il y a peut-être un autre système que celui-ci, et vos questions, je vous les renvoie, et je suis un peu moins en retrait. » Mais quelque part, cette assurance dans les formules interrogatives qui apparaissent donc une fois tous les 10 phrases, c'est parce qu'il y a ce questionnement fondamental.
C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous me dites, Damon Mayaf, c'est qu'il pose, si Sarkozy pose autant de questions, c'est parce que fondamentalement, il est absolument convaincu qu'il n'y a pas d'autre système, qu'un autre monde n'est pas possible.
Oui, je crois que c'est vraiment ce qui le différencie, par exemple, d'un Jacques Chirac, c'est qu'il a cette certitude quant au modèle idéologique à suivre. Et il pense que historiquement, la social-démocratie n'existe plus, donc il s'amuse constamment à citer les exemples aussi bien grecs qu'espagnols qui ont supprimé l'impôt sur les grandes fortunes. C'est son grand jeu de montrer que tous les gouvernements en Europe ont à peu près pratiqué les mêmes politiques. Et donc, sûr de cette victoire, il se permet d'interroger effectivement l'élite de gauche et de l'interpeller par ces formules interrogatives.
France Inter.
Aujourd'hui, pour célébrer la fin de la semaine de la langue française, France Inter a souhaité recevoir la plume officielle du président de la République, Monsieur Henri Guénaud. Une invitation qui devrait ravir les nombreux amoureux de littérature, de grammaire et de liaison qui nous écoutent. Henri Guénaud, sculpteur de mots, inventeur de formules, un travail d'orfèvre qui consiste à mettre en musique la pensée présidentielle.
Descends de là un peu si t'es un homme. J'écoute, mais je tiens pas compte. S'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts...
Tout ça, c'est du Guénaud. Des moments d'anthologie qui chaque jour viennent nourrir le futur bêtisier 2009. Sarkozy qui fait un discours, c'est Jean-Claude Van Damme qui fait de la politique. Guénaud a un sacré CV. Il a été la plume de Chirac, de Séguin, de Pasqua. Mais tout ça, c'est du passé. En vérité, depuis qu'il est au service du président de la République, Henri Guénaud souffre. Pour un auteur, écrire pour Nicolas Sarkozy, c'est un véritable calvaire. Ses textes sont triturés, massacrés, sa pensée est trahie. Bon, au niveau des droits d'auteur, ça ne change rien. Le président avale beaucoup de mots, c'est vrai, mais comme il en rajoute à des endroits où il n'en faut pas, Guénaud s'y retrouve. Que le président n'ait aucune orthographe n'est pas si grave. Xavier Darcos ne sait pas faire une règle de trois et Bernard Laporte ne sait sans doute ni lire ni écrire. Non, les fautes d'accord ennuient beaucoup plus Guénaud. quand dans un hôpital de Rambouillet, s'adressant au personnel soignant, le président déclare « On commence par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux ». Guénaud s'arrache les cheveux. Infirmières, c'est du féminin. Elles n'ont pas toute la plastique d'un mandalire. Mais le pire pour Guénaud, c'est quand Nicolas part en improvisation. Le 17 mars dernier, devant un parterre d'ouvriers, il devait prononcer la phrase suivante. On se demande parfois à quoi servent de longues études. Dans sa bouche, c'est devenu, on se demande, hein, c'est à quoi que ça leur a servi. À ne pas parler comme une vache espagnole aurait murmuré Guénaud. Globalement, Guénaud aime son maître et fait tout pour que le président s'améliore. La semaine dernière, il lui a fait travailler une fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Allez, monsieur le président, on articule, on respecte le texte, je veux entendre toutes les rimes. D'accord, j'y vais. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Non, Nicolas, le texte, le texte! Pas un seul petit morceau de mot chaud de vermisseau. Le texte! Écoutez, Guénaud, vous m'emmerdez, hein? Je le dis à la façon que je veux. Je reprends. Parce que la fourmi, hein? Qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait bossé tout l'été et que la cigale qui n'a rien foutu, elle serait venue la bouche en cœur lui piquer ses économies? Eh ben, permettez-moi de vous dire que la fourmi serait furieuse. Eh ben, moi, j'ai pas été élu pour que les fourmis soient furieuses. Et que la cigale, hein? Si elle n'est pas contente, eh ben que, hein? Hein, qu'elle vienne un peu me le dire, hein, qu'elle descende un peu me le dire si elle est un homme, la cigale, hein.
France Inter.
Donc le point d'interrogation, le parce que, alors le pas, le je veux, le vouloir, et puis vient le thème du travail.
Le 415 fois prononcé par Sarkozy depuis 2007, c'est ça?
C'est ça. Le pronom démonstratif, les banques, le capitalisme. Alors là,
ça, il l'a prononcé 63 fois sur 84 fois par tous les présidents de la Ve République.
Oui, là, c'est un autre aspect du discours et c'est ce qui fait la force du discours de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il allie des méthodes publicitaires, on va dire. Enfin, c'est un grand communicant et à côté de ça, il y a un vrai fond que l'on a trop souvent négligé, qui est le fond d'une droite post-État-providence décomplexée, qui entend remettre en cause, donc on le sait, l'idéologie de mai 68, c'était son grand thème de campagne de 2007, mais de façon plus générale, le CNR, ou en tout cas le Front Populaire, 83 les retraites par exemple, ou même 1997 et les 35 heures, donc un discours qui est réidéologisé. Ça c'est un des aspects forts du discours de Nicolas Sarkozy. Je m'inscris en faux contre cette vision d'un Sarkozy superficiel qui va changer de position au fil. Au contraire, il a une colonne vertébrale idéologique très marquée qui ne varie très peu, qui est donc cette droite avec des valeurs très traditionnelles que l'on retrouve dans l'histoire des droites, autorité, morale, mérite, responsabilité individuelle, travail, récompense. Et c'est tout à fait identifié. Pendant longtemps, ça a été la force de Nicolas Sarkozy que d'avoir cette absence de complexe quant à l'idéologie. Et oui, je parle de sarkozisme alors que je ne parlais pas dans mon livre précédent de chiracisme. Je pense qu'effectivement, ça n'avait pas lieu d'être.
Ça n'a jamais existé.
Voilà, c'était plus une façon de gouverner, enfin, ou une absence justement de ligne directrice idéologique chez Nicolas Sarkozy. En revanche, je trouve une belle continuité et de réelles valeurs dans le discours.
Damon Mayaffre, encore une fois, quand vous dites ça, vous ne parlez pas comme un politologue, vous ne parlez pas comme un éditorialiste du haut de son expérience et de son intuition. Toutes ces propositions que vous nous donnez sont étayées statistiquement, voire même mathématiquement.
Oui, alors une façon de montrer cette réalité, me semble-t-il, c'est par exemple de regarder la distribution des noms dans le corpus. Et par exemple, le mot capitalisme était un mot absolument tabou.
C'est un gros mot, quoi.
C'est un gros mot, un mot tabou dans le discours. Regardez le graphique présidentiel depuis 1958. Non seulement un De Gaulle ou un Pompidou, un Giscard ne l'utilisait pas, mais même un Mitterrand le sous-utilisait. Chirac, n'en parlons pas. Et Sarkozy réintroduit ce mot. Et quand on regarde de près le contenu du discours, alors c'est un discours un peu alambiqué sur le capitalisme qui convient de réguler, etc. Mais il y a une vraie offensive, contre-offensive idéologique autour de ce mot, puisque Sarkozy ne va jamais utiliser le mot libéralisme, là où la gauche, elle,
précisément, qui n'osait plus employer capitalisme, attaquer la droite pour son libéralisme, voire son ultralibéralisme supposé, eh bien Sarkozy renverse un peu l'ordre du discours et dit non, mais la vraie question, c'est pas libéral ou pas libéral, c'est êtes-vous pour ou contre le capitalisme ? Et donc là, il renvoie la gauche à sa défaite historique, la social-démocratie, et même, on l'a cité, le Parti communiste, qui renonce finalement à contester le capitalisme. Et il se situe là, dans cette victoire idéologique, selon lui, Nicolas Sarkozy, pour ou contre le capitalisme, et tout un chacun reconnaissant que le capitalisme est quelque part le seul système admis aujourd'hui. Donc ça, c'est très fort dans un discours présidentiel. Je le répète, le discours présidentiel s'était beaucoup abîmé, mais dès l'origine était un discours consensuel. Nicolas Sarkozy a des thèmes clivants, des thèmes forts et des thèmes idéologiques que l'on n'avait pas auparavant.
Voilà, vous voilà armés, les oreilles pointues, pour l'émission demain matin, le 7-9, avec Nicolas Sarkozy sur Inter. Merci à Damon Mayafre, l'auteur du bouquin sur le discours de Nicolas Sarkozy, « Mesures et démesures du discours de Nicolas Sarkozy, 2007-2012 ». C'est aux éditions Sciences Po, c'est un reportage de Guy Vanquetil. Autre chose, même si c'est pas très éloigné, un bouquin de Sébastien Fontenelle vient de sortir au Seuil qui s'intitule « Vive la crise » ou l'art de répéter inlassablement dans les médias qu'il est urgent de réformer enfin ce pays de feignants et d'assistés qui vit vraiment au-dessus de ses moyens. Voilà, vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez la réécouter également sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook, où nous pouvons nous retrouver. Michel Bézikian et Alexandre Chenet étaient à la technique aujourd'hui, Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission à cité de Marina Toudez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Vous avez entendu, il est 16h et passé de quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
La Corée du Nord confirme les informations données il y a quelques minutes par les États-Unis. Elle accepte bien la mise en place d'un moratoire sur les lancements de missiles à distance, les tests nucléaires et les activités d'enrichissement de l'uranium. De même, Pyongyang accepte le retour des inspecteurs de l'AIEA sur son territoire, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans la foulée, Washington a annoncé pour sa part la reprise de l'aide alimentaire vers la Corée du Nord, 240 000 tonnes au total. À 4 jours de la présidentielle en Russie, Vladimir Poutine accuse aujourd'hui l'opposition russe de ne pas respecter la démocratie. L'opposition en effet appelée à des manifestations au lendemain du scrutin. Le remorquage du Costa Allegra au large des Seychelles se poursuit. Il est attendu demain matin sur la principale île des Seychelles, mais déjà le rapatriement s'organise. Alors selon un représentant du corps diplomatique des Seychelles, 3 avions sont affrétés pour demain soir. Le premier arrivera dès 6h du matin vendredi à Roissy-Charles-de-Gaulle. À son bord, une 60aine de Français qui ont choisi de rentrer. Les deux autres avions iront à Rome en Italie et à Vienne en Autriche. Au total donc, sur les 727 passagers, un tiers seulement a choisi de rentrer. Les autres veulent, dit-on, profiter de la fin de leurs vacances sur place aux Seychelles, dans des hôtels 4 à 5 étoiles. Il paraît que là-bas, c'est la période du carnaval. Reprise du travail pour les salariés d'Albany Kofpa à Saint-Junien-en-Haute-Vienne, non pas demain, mais plutôt vendredi ou lundi au plus tard. Précision faite par nos confrères de France Bleu Limoges aujourd'hui. Cet après-midi, les salariés de l'usine de tissage ont manifesté contre la fermeture de leur site. Plus de 130 emplois restent menacés. Eux aussi, ils ont manifesté aujourd'hui, les salariés du technocentre de Renault-Guyancourt dans les Yvelines, 3 à 400 au total, pour des augmentations de salaire. Les débrayages n'ont pas excédé une heure. Nathalie Kosciusko-Morizet précise aujourd'hui les propositions du candidat Sarkozy sur l'éducation concernant la fin du non-remplacement d'un enseignant du primaire sur 2. La porte-parole du président candidat explique que ça entrera en vigueur à la rentrée 2013. En revanche, la suppression de 5700 postes dans le primaire reste à l'ordre du jour dans le budget 2012. Pour ce qui est du secondaire, Nathalie Kosciusko-Morizet encore une fois affirme que les collectivités locales seront sollicitées financièrement dans le cadre de la réforme qui prône une présence accrue des professeurs dans les établissements. et ça concernera cette aide financière, notamment l'aspect matériel comme les bureaux. Un homme de 45 ans, soupçonné d'avoir proféré lundi des menaces de mort contre Nicolas Sarkozy, a été interpellé aujourd'hui à Bordeaux. Selon le quotidien Sud-Ouest qui révèle l'information, l'homme ne semblait pas dans son état normal. Le président candidat doit tenir lui une réunion publique samedi à Bordeaux. L'homme soupçonné d'avoir tenté de brûler sa fille à Paris après l'avoir aspergé d'essence a été mis en examen aujourd'hui et écroué. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat. Selon les premiers éléments de l'enquête, le père de confession musulmane ne supportait pas la relation de sa fille avec un jeune homme de confession juive. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Les couleurs musicales d'Inter. The Deluxe Band. Good morning. 4 heures de programme musical non-stop.
Il y a le râteau du mari, c'est ma femme, t'es gentille. Le râteau du hérisson, ça pique mais c'est trop mignon.
Les 80 nouveautés du moment, d'accord, sélectionnées par France Inter. Les couleurs musicales d'Inter. En partenariat avec Deezer. À écouter dès maintenant sur franceinter.fr. France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour, bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un album nous accompagne cette semaine, ça s'appelle Une fête baroque. Il a été conçu pour le 10e anniversaire du concert d'Astrée, dirigé par Emmanuel Haïm. Un concert a été donné au Théâtre des Champs-Élysées et maintenant cet album est disponible. C'était en fait l'enregistrement le 19 décembre, c'est assez récent, vous voyez. Et aux côtés de l'orchestre et du chœur du concert d'Astrée, il y avait 23 chanteurs parmi les plus en vue du monde de l'opéra, Nathalie Dessay, Patricia Petit, Bon, Jarouski, Villasson, Anne-Sophie Van Hauter, Sandrine Pio, Stéphane Degout, Sarah Mingardo, Topi Letipou, etc., etc. Tous ont participé gracieusement à cette soirée historique qui marquait le 10e anniversaire donc du concert d'Astrée. Et puis surtout, ça a permis de récolter plus de 110 000 euros au profit de la fondation Gustave Roussy. Et une partie des recettes de la vente de l'album, d'ailleurs, va être de même versée à la fondation pour soutenir le programme de recherche Révolution Cancer qui est mené par l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Voici un extrait, c'est la conclusion de cet album, l'Alléluia du Messie de Handel, chanté par tout le monde, tous ceux qui étaient présents ce jour-là.
La toute dernière pièce,
non.
Nous vous invitons à lire la musique dans vos programmes et chanter avec nous. Allez, parti. Non mais vous connaissez.